Dans un village, minuit sonne. Un forgeron frappe le fer.
Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis.
Et sa main velue s'accompagne d'une chanson.
Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes donc le lundi 15 avril 2024 et je vous présente une chronique du groupe Fred Zeller dans laquelle nous allons parler du SNU, de la marche à la guerre et de cette situation anxiogène qui est en train de se développer et revenir également sur des aspects historiques liés à, bien évidemment, au conflit actuel entre Israël, l'agression d'Israël contre Ramallah aujourd'hui, contre toutes les villes de Gaza, du territoire de Gaza, et avec ces destructions massives et ces milliers de jeunes, de la population, de femmes, d'enfants, donc de la population de Gaza, qui meurent sous les bombardements. Alors, pour commencer, je vous propose donc sur la question du SNU, une réflexion que j'ai trouvée sur le club Mediapart et qui me semble intéressante, qui me semble être une contribution, une bonne contribution pour réfléchir à cette question de la mise en place du SNU, hein, dont, mais c'est rappelé au début du texte, hein, qui se dirige donc vers l'obligation de fait et qui pose quand même beaucoup, beaucoup de problèmes. Alors, voilà ce que dit ce chroniqueur qui s'appelle Monsieur Girard sur le club Mediapart. SNU, la faute de l'éducation nationale. Dans quelques semaines, la participation forcée des élèves de seconde rend de facto le SNU obligatoire. Avec la mise au pas de la jeunesse autour d'une mystique identitaire par une contrainte de type militaire, c'est aussi le service public d'éducation, maître d'œuvre et maître d'ouvrage du dispositif qui change de nature. Des jeunes en uniforme, au garde-à-vous, devant le drapeau aux accents de la Marseillaise, l'extrême droite en rêvait, Macron le fait. Après 6 ans de mise en place laborieuse d'un dispositif qui n'a jamais rencontré le public visé, 6 ans de battage médiatique, de communication infantilisante autour d'un projet qui tourne vite à vide en dépit de son coût prohibitif, le SNU, en attendant une généralisation retardée par des considérations budgétaires et logistiques, le SNU devient obligatoire. Il l'est en tout cas pour les lycéennes et lycéens de seconde qui, dans quelques semaines, parce qu'ils n'auront pas trouvé de stage en fin d'année, se verront dans l'obligation de subir une période d'encasernement dont on ne connaît aujourd'hui d'équivalent dans aucun pays démocratique. Avec cette singularité qui semble avoir échappé à beaucoup, le transfert institutionnel et budgétaire à l'éducation nationale d'une forme d'embrigadement, d'endoctrinement qui était autrefois à la charge de l'armée. Avec la mise au pas de la jeunesse autour d'une mystique identitaire, c'est aussi le service public d'éducation qui change de nature. On sait déjà depuis longtemps, depuis l'annonce de la création du SNU, ce que les rapports de l'INIEP confirment en filigrane, que les objectifs mis en avant n'ont pas résisté à l'épreuve des faits. Mixité sociale, culture de l'engagement, solidarité, insertion sociale et professionnelle, bilan scolaire et sanitaire, autant de justifications laborieuses qui se sont égarées en chemin au fil des séjours dits d'intégration ou des missions d'intérêt général. Sauf, bien sûr, à confondre mixité sociale et uniforme, engagement des jeunes et inscription d'une poignée d'entre eux à un séjour dont la finalité échappe aux premiers concernés. Un engagement qui, en devenant obligatoire, sous peine de sanction, devient en réalité une brimade. L'imposture du brassage social. Pour tenter de justifier cette bouffonnerie, l'argument massu dit du brassage social et de la mixité sociale, du vivre ensemble, est mis à contribution. Ainsi, 2 semaines d'enfermement obligatoire auraient la miraculeuse propriété de faire acquérir à leurs bénéficiaires les vertus sociales et civiques d'une quinzaine d'années de scolarité, n'auraient pas pu leur faire acquérir. 15 ans de fréquentation scolaire, d'apprentissage de la vie en société, avec ses règles, ses obligations, que les élèves respectent sans doute davantage que les adultes les leurs. Pire même, quand le principe de service obligatoire tourne à l'idée fixe d'une société qui tolère tous les dérèglements, toutes les malversations d'une classe politique, prompte à exiger des jeunes le respect des règles alors qu'elle s'en dispense en toute bonne conscience dans sa pratique du pouvoir. Dans un pays travaillé par les inégalités, par l'exclusion, par la pauvreté, l'exigence de brassage social est une imposture. Vieux fantasme de la fraternité des casernes, quand en réalité c'était d'abord les petites gens qui mouraient à la guerre. Au demeurant, arrivés à 16 ans, les jeunes ont pour beaucoup d'entre eux déjà pris la mesure de ce pieux mensonge alimenté par un système éducatif qui entretient les discriminations, qui sélectionne sur une base sociale et souvent ethnique, faisant réussir les élèves issus des milieux aisés et échouer les autres. Brassage social ? Pourquoi les élèves devraient-ils faire semblant de prendre au sérieux cette fiction égalitaire quand leur sortie du collège, l'âge du SNU, est conditionnée par leur situation sociale et familiale, ceux qui ont les moyens de s'orienter comme ils l'entendent et ceux qui sont orientés, c'est-à-dire le plus souvent relégués. Une relégation qui vient de trouver son officialisation avec l'instauration d'un examen d'entrée au lycée, en réalité un barrage dressé sur la route des plus défavorisés. Dans une convergence qui n'a évidemment rien d'un hasard, cette sélection brutale, manifestation d'une régression sociale assumée sans complexe, s'accompagne de la mise en place, au sein même de l'institution scolaire, d'un dispositif d'enfermement obligatoire dont la fonction finale consiste précisément à en masquer la violence derrière l'uniforme, l'uniformité plutôt que l'égalité. Enfermement, encasernement. En réalité, malgré les dénégations de ses instigateurs, le SNU reste dans son principe une période d'inspiration militaire, ou, à tout le moins, fortement militarisée. Réclusion obligatoire, uniforme, rituel militaire, encadrement en partie militaire, coercition, c'est bien un contrôle renforcé des jeunes, de plus en plus jeunes, avec un recensement envisagé dès l'âge de 15 ans, que vise la mise en place du dispositif. Que le SNU était élaboré par une commission dirigée par un militaire n'est évidemment pas fortuit. D'emblée, le cadre est fixé, qui se traduit par une période d'enfermement obligatoire qui ne diffère guère d'un encasernement. Du reste, ce sont des considérations budgétaires, bien plus que morales ou pacifistes, qui ont amené Macron à en rabattre avec un projet d'une durée initialement prévue de 3 à 6 mois. Le rapport Menawin ne fait d'ailleurs pas mystère de cet objectif. Citation. Chaque génération doit, autour de sa majorité, prendre conscience des enjeux de la défense et de la sécurité nationale et s'approprier les moyens d'en comprendre les outils et de discerner le rôle que chacun peut y jouer. Fin de citation. L'autre finalité du SNU, notamment à travers la très hypothétique mission dite d'intérêt général, met en avant l'engagement militaire. Citation. Il s'agit d'effectuer une sensibilisation approfondie par des personnels compétents en matière de défense et de sécurité nationales et européennes. Connaissance des menaces, moyens et organisations pour y remédier, présentation des différentes formes d'engagement relevant de la sphère de la sécurité. Autant que possible, le SNU doit fournir à l'armée le personnel dont elle a besoin et dont les choix budgétaires plus que généreux assurent le financement. Une mystique identitaire. En dehors de cette dimension purement militaire, sans aucune fonction scolaire ni sociale, que reste-t-il alors du SNU ? Essentiellement, la mise en scène d'une jeunesse militarisée et patriotique, disciplinée ou plutôt soumise, un message adressé à une opinion publique nostalgique du service militaire, fantasmée comme le garant d'un ordre civique perdu. Le SNU, c'est surtout la confusion obstinément entretenue entre solidarité et nationalité, entre citoyenneté et identité nationale, la nation faisant arbitrairement figure de seul espace de socialisation possible quand elle n'est qu'une construction historique parmi d'autres, élaborée sur une appartenance factice et exclusive, français ou non français. Par nature, la symbolique identitaire est porteuse d'intolérance, de repli, de peurs irrationnelles, d'orgueil collectif mal placé, dérivant presque inévitablement vers la xénophobie et le racisme. Avec le SNU, elle s'offre une place de choix dans la formation mentale et civique des jeunes. Incontestablement, l'imprégnation patriotique, les considérations identitaires sont au cœur du SNU. Pour l'ancienne secrétaire d'État chargée de sa mise en œuvre, Le SNU doit donner, citation, le goût du patriotisme, faire aimer la France. Il ne s'agit pas seulement d'être français, mais de devenir amoureux de son histoire. D'où l'importance des liens avec les anciens combattants, précisant pour ceux qui ne seraient pas au clair avec la chronologie qu'il s'agit principalement des anciens d'Algérie, de la participation aux cérémonies patriotiques, le tout aboutissant à cet ahurissant rituel quotidien de jeunes au garde-à-vous devant le drapeau aux accents du sang impur abreuvant les sillons. À vrai dire, avec sa dimension identitaire et militaire, l'existence même d'un dispositif aussi étroitement intégré dans le cursus des élèves n'est pas un accident de parcours. Dans la formation scolaire des jeunes, il en est même, le plus officiellement du monde, l'achèvement, parachevant un bien mal nommé parcours citoyen qui se prolonge tout au long de la scolarité. Mise en œuvre dans le cadre des programmes d'EMC, éducation morale et civique, mais pas uniquement. Ce parcours fait l'objet depuis quelques années d'une sérieuse dérive idéologique, enseignement de l'histoire inspirée, surtout à l'école primaire, du roman national, parsemé de commémorations patriotiques et militaires obligatoires, culte des symboles nationaux. Tout est mis en œuvre pour faire naître chez de jeunes enfants un sentiment d'appartenance à une collectivité étroitement nationale qui s'invente des frontières et donc des ennemis. Dans le secondaire, en collège tout spécialement, l'éducation à la défense impose une vérité officielle sur des questions aussi fondamentales que la guerre et la paix, la bombe atomique, la violence comme moyen de résolution des conflits, les relations internationales, le commerce des armes, la sécurité, etc. Objectif explicite de cet enseignement qui gangrène littéralement l'EMC, citation, « faire comprendre aux élèves que l'armée sert la nation ». Par une lourde contrainte personnelle, le SNU parachève un conditionnement déjà préparé par l'école. L'éducation nationale, maître d'œuvre et maître d'ouvrage du SNU. De fait, au fil des expérimentations de ces dernières années, l'éducation nationale a vu son rôle s'affirmer au point de devenir l'élément moteur du SNU, lui offrant son administration, ses personnels, ses locaux, son financement, 3 à 4 milliards d'euros par an en cas de généralisation. Un rôle majeur dans l'initiative et le pilotage du dispositif, confirmé par le rapport de l'INJEP à propos du séjour d'intégration de février 2022 et du recrutement de 3215 volontaires. Citation de ce rapport. La communication à l'attention des établissements scolaires, lycées généraux et technologiques, lycées professionnels, a été portée par l'intermédiaire des rectorats. Partout, cette promotion massive a été accompagnée de séances plus ciblées au sein d'un panel d'établissements dans l'objectif d'aller vers les jeunes et d'expliciter les objectifs et le contenu des différentes phases du SNU. Au sein des établissements, des sessions de promotion, souvent obligatoires, ont été organisées, parfois à l'initiative d'un professeur, car ces campagnes de recrutement, la terminologie militaire ne vient pas là par hasard, sont précédées d'une phase d'information auprès des 15-16 ans qu'auprès des familles et s'appuient notamment sur les cours d'EMC en classe de 3e. En juin 2024, l'intégration du SNU au stage de seconde, ou par l'intégration du stage de seconde au SNU, apparaît comme une étape décisive. Le SNU obligatoire pour les élèves qui n'auront pas trouvé de stage. Une perspective qui ne pose manifestement aucun problème de conscience à ce proviseur plaçant d'autorité les élèves de son établissement devant une impossible alternative, c'est soit le stage, soit le SNU. Engagement sans réserve de l'éducation nationale, responsabilité entière de l'éducation nationale. Avec le SNU, ce n'est pas l'armée qui s'incruste à l'école, c'est l'école qui ouvre ses portes à l'armée et à un conditionnement généralisé des jeunes. Qu'une scolarisation désormais obligatoire a rendu imparable. Aujourd'hui, cette aberration éducative, dont on ne connaît d'équivalent dans aucune démocratie, c'est l'éducation nationale qui l'initie et la met en œuvre à travers un dispositif qui violente la liberté de conscience, les valeurs des élèves et de leurs familles, celles des personnels également. Un SNU qui dépouille le service public d'éducation, des principes qui fondent sa légitimité et le détourne sur une voie malsaine, une voie déjà trop largement occupée par une multitude de tribuns bruyants et venimeux. Jusqu'à ce jour, les milieux éducatifs, à quelques exceptions près, ont montré une singulière complaisance pour le SNU, au moins par leur silence, leur pusillanimité, et très souvent par une forme de complaisance, de complicité, pouvant aller pour certains jusqu'à la collaboration active. Aujourd'hui, 6 ans après son lancement, par le biais des stages de seconde, le SNU se trouve directement intégré à la scolarité obligatoire des élèves, une évolution qui, d'une certaine façon, s'inscrit dans la logique punitive et quasi totalitaire prescrite par Attal pour l'école. « À l'école française, on ne conteste pas l'autorité », c'est une citation donc d'Attal. Mais l'on comprend alors que l'éducation nationale franchit un degré de plus dans la mise en place de quelque chose qui tient davantage du dressage que de l'éducation. Voilà, je trouve que cette contribution apporte beaucoup d'éléments de par la précision de l'argumentation et qu'elle pose vraiment les problèmes de fond sur ce qui est en train de se passer dans ce pays. Pour ma part, je vois entre ces dispositifs de généralisation du SNU à travers ces mesures très pernicieuses, le stage ou le SNU, pour le résumer, comme le dit ce proviseur qui collabore complètement au projet donc du gouvernement. Le développement d'une idéologie d'État qu'on a vu se déployer depuis quelques années à travers les différents dispositifs, et notamment la loi qui instrumentalise la laïcité pour mettre en place des dispositions complètement inverses à ce qu'est la laïcité sur le fond. Je parle de la loi visant donc à développer les principes de la République, les valeurs de la République. Hein, on en a souvent parlé dans nos chroniques et qui amène donc à ce que les associations, par exemple, devraient se soumettre à la laïcité alors qu'elles ne relèvent pas de la loi de 1905, mais que ceux qui mettent en place ces principes sont, eux, soumis à la loi de 1905. C'est le monde à l'envers, parce que souvent, on se rend compte donc qu'ils ne les respectent pas dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, on a souvent expliqué en quoi ces dispositions, ces déclarations, toutes les mesures qui entourent la question de la laïcité dans le pays relève de la mise en place d'une idéologie d'État. Et là, on voit comment ce dispositif qui concernant, entre guillemets, la laïcité, travestissant la laïcité, est complété sur le plan de l'éducation par ces dispositifs visant à généraliser le SNU et à en faire un élément majeur d'imprégnation dans la tête des enfants de cette idéologie d'État. Alors, je pense que nous aurons à revenir sur ces questions-là et nous ferons des émissions, je pense des interviews, sur ces questions du SNU, parce que c'est effectivement un des aspects, un des éléments majeurs dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, avec donc ces élèves de seconde qui vont être confrontés à cette alternative entre trouver un stage qui soit réellement un stage. Hein, on sait que trop souvent, ces stages en fin de seconde ne contribuent en rien aux éléments permettant à l'élève de se former et de progresser. Hein, dans un certain nombre de cas, ce sont des emplois gratuits pour les employeurs. Et que l'alternative avec le SNU va se relever effectivement de cas de conscience. Voilà. Donc, nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, je voudrais, puisque l'heure s'est avancée beaucoup, je ne vais pas avoir le temps d'évoquer les autres sujets que j'avais évoqués, dire un mot d'une conférence qui s'est tenue, organisée par Dordogne-Palestine vendredi dernier, à Boulazac. Cette conférence a été effectivement un succès. Hein, il y avait, je crois, 200 à 250 personnes. Et la présentation, l'introduction, la discussion qui a été faite par Ronnie Broman a été d'un très, très haut niveau, apportant énormément d'éléments historiques, sociaux, permettant de comprendre le fonctionnement de la société israélienne d'un côté, permettant également d'entrevoir les aspects de résistance d'une partie de la population à cet édifice meurtrier que met en place le gouvernement de Netanyahou dans l'objectif essentiel de se maintenir au pouvoir au prix des dizaines de milliers de morts que l'on voit aujourd'hui à Gaza. Et finalement, confirmer ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire concernant l'État d'Israël, c'est que la seule perspective qu'offrent les dirigeants de ce pays à leur peuple et plus particulièrement à la jeunesse, c'est la guerre toujours, la guerre sans fin. Pour ma part, je suis convaincu qu'on ne peut pas avoir une société qui se base sur une telle perspective et que la mobilisation de la population israélienne finira par dominer cet état de choses parce que il n'est pas possible que ça continue ainsi pendant des décennies et des décennies. Et il est vrai que du côté des Palestiniens, les organisations dont la construction a été favorisée par Netanyahou, hein, je parle du Hamas, il s'en est lui-même félicité, montre à quel point c'est également cette perspective de la guerre qui est largement déployée. Et là encore, la jeunesse palestinienne, elle, ce qu'elle veut, c'est la liberté, c'est du travail, c'est le respect de ses droits, c'est l'égalité des droits, finalement. Je crois que c'est ce que disait Roni Broman en conclusion de sa conférence, que la clé de la solution pour cette région du monde, c'est peut-être plus que n'importe où ailleurs dans le monde, l'égalité des droits entre tous les citoyens, dans toute la population, composante juive, composante palestinienne. Et ça sera long, ça sera sans doute difficile. Les états d'esprit sont effectivement, c'est compliqué. Mais je pense que pour tous ceux qui sont attachés au développement de la paix et à en finir avec le développement de la guerre, c'est la seule voie possible. Et j'irai chez nous, ce combat pour la paix prend tout son sens, puisque l'on voit qu'il n'y a pas de jour sans qu'une déclaration d'un politicien, d'un ministre, de la plupart des têtes de liste pour les élections européennes vienne en rajouter sur cette situation qui devient très anxiogène pour la population. La guerre deviendrait quelque chose d'inévitable. Depuis quand se base-t-on sur ce type d'appréciation? S'il y a un risque de conflit, on fait tout pour trouver les solutions, les leviers qui vont permettre de trouver une issue pacifiste. On n'en appelle pas à un armement généralisé dans tous les domaines. On n'en appelle pas à, comme on l'a vu donc la semaine dernière à Bergerac, le président de la République venir inaugurer la mise en service de nouveaux ateliers pour la fabrication donc de poudre et de matériaux servant donc à la fabrication de dispositifs militaires meurtriers. C'est pas là la voie de la paix. C'est très clair. Il faut absolument donc en revenir à une politique visant la paix et non pas la guerre. On en arrive d'ailleurs, dans les discours qui sont tenus, à se dire « mais la guerre, c'est la guerre pour la guerre » quand on entend toutes ces déclarations. J'ai moi-même posé la question à plusieurs personnes lors de différentes occasions, à un moment donné, en demandant « mais la guerre contre qui ?» Et là, il n'y a pas de réponse. On se rend compte que les commanditaires de cette orientation politique sont, je pense, plutôt les marchands d'armes, les fabricants d'armes, et que ceux-là ont constitué un lobby qui pèse très, très, très lourd au-dessus du politique. Et ça, c'est effectivement le danger de cette situation. Les armes produites finissent toujours par servir un jour. Et le danger est vraiment là. Alors, pour notre part, à la Libre Pensée, nous sommes résolument du côté du combat pour la paix. Nous nous associerons donc aux initiatives qui seront prises dans ce domaine. Et en ce qui concerne la question du SNU, puisque c'était le premier sujet du jour, eh bien, nous allons poursuivre sur cette question nos initiatives contre la mise en place du SNU. Nous avons tenu déjà plusieurs conférences. Nous en tiendrons d'autres. Nous en organiserons bien évidemment en Dordogne dans les prochains mois. Voilà. Donc, bien évidemment, à ce micro, nous reviendrons donc sur les initiatives que nous serons amenés à prendre dans ce sens. Et si parmi nos auditrices, auditeurs, certains souhaiteraient que dans leur localité ou près de leur localité soit organisée une telle conférence, n'hésitez pas à prendre contact. Nous organiserons les choses. Pour prendre contact, je vous propose tout simplement d'écrire à l'adresse suivante contact@lpdordogne.fr et nous vous répondrons très rapidement pour voir comment nous pourrons mettre en place donc une telle initiative, une telle conférence. Voilà. Alors, nous en arrivons maintenant vers la fin de cette chronique et je voudrais, avant de conclure, vous laisser écouter une chanson qui est reliée, bien évidemment, à ce sujet du jour. C'est une chanson de Francis Lemarque, « Quand un soldat ». C'est une chanson assez courte, mais je trouve qu'elle est un petit peu adaptée au sujet du jour.
Fleur au fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas. Et son barda contre son flanc qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Parti pour mourir un peu à la guerre, c'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au pas cadencé. Des hommes, il en faut toujours, car la guerre se fout des serments d'amour, elle n'aime que le son du tambour. Quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà.
Voilà, bon, eh bien écoutez, pour conclure cette chronique, je vous propose un petit rappel sur les publications de La Libre Pensée. Alors tout d'abord, la publication du groupe Fred Zeller de La Libre Pensée, Front Laïque, là, le dernier numéro, le numéro 125, vient de paraître. Et là encore, ce numéro, vous pouvez vous le procurer en contactant la Libre Pensée Dordogne, la fédération, le groupe Fred Zeller de Dordogne, donc appartenant à la Fédération nationale de la Libre Pensée, donc toujours contact@lpdordogne.fr. Cette publication est proposée sous deux formes. En format papier à 2,50 € le numéro, ou en format numérique, c'est un abonnement qui court sur un an pour un montant quasi symbolique de 2 € pour l'année et que vous pouvez régler en venant donc sur le site de la Libre Pensée Groupe Fred Zeller, donc lpdordogne.fr, et vous y trouverez les indications pour pouvoir vous abonner en version numérique avec donc la procédure proposée par LOASO qui vous permet de régler 2 € ou un peu plus si vous souhaitez apporter un soutien financier au groupe Fred Zeller. Et puis les deux autres publications, donc les publications nationales de La Libre Pensée, la revue mensuelle, donc La Raison, et la revue trimestrielle L'Idée Libre, dont un numéro vient également de sortir, et dont le sujet central est science et religion. Là encore, les mêmes coordonnées pour pouvoir nous contacter par mail contact@lpdordogne.fr. Donc, je vous remercie d'avoir été attentif à cette chronique et vous proposerai une nouvelle chronique lundi prochain à 11h30, toujours sur Radio Libre en Périgord. Merci.
En forgeant un soc de charrue.
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de La Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30.
Elle tient ton glaive.